10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est l'islam au présent tous les samedis hein, sur Beurre FM. 10h, 11h avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi d'être avec toi ce matin, avec nos auditrices.
Le plaisir est partagé imam Abdelali.
Avec nos auditrices et auditeurs de Beurre FM. Voilà, avec qui, encore une fois, Inch'Allah, pendant bientôt le ramadan, tous les jours, Inch'Allah.
Je voudrais pas dévoiler des secrets, mais je vous ai trouvé bien parti ce matin. Vous étiez parti pour aller nous chercher des croissants.
Oui.
Et après, vous êtes revenu sans croissants.
Non, parce qu'il n'y avait plus le temps.
Ah, il n'y avait plus le temps.
Non, je ne suis pas parti finalement.
Ben non, c'est ça. J'étais en train de me motiver pour préparer cette émission.
J'ai regardé le temps et j'ai vu que c'était trop serré.
C'était ça. Bien, voilà. Parce que nous allons parler de l'islam de France. Je ne sais pas si c'est un sujet digeste ou pas, et si les gens comprennent bien ce qui s'y passe. Mais ça bouge, hein, Imam Abdelali, l'organisation ou pas de l'islam de France. Tout le monde annonce une fin possible du CFCM pour le 19, mais c'est peut-être vendre la peau du CFCM.
Avant de vendre la peau de l'ours,
ouais, etc. Voilà, moi, je suis peut-être pas, vous verrez la semaine prochaine, le CFCM, il sera encore là. Hein.
Il y a une histoire bidon qui dit que il faut qu'ils atteignent un certain quorum. Moussaoui, il est malin. C'est quelqu'un de très intelligent, de très futé. Donc lui, bien entendu, il va essayer de jouer le forcing puisque son seul cheval de bataille, c'est le CFCM. Donc s'auto-détruire son seul cheval de bataille, c'est sûr que c'est pas dans son intérêt. Il a pas intérêt à ce que le CFCM soit dissous. Moi, ça, c'est, je pense, mon sentiment. Maintenant, lui, il dit que
le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre des cultes, a dit que le CFCM avait vécu.
Voilà, et qu'il doit mourir. Voilà.
Bah, Mais quand on dit qu'il a vécu.
Et Moussaoui, le président actuel du CFCM, dit que effectivement, dans l'état actuel des choses, le CFCM n'est pas vivable.
Voilà. Présenter notre invité, Imam Abdelali.
Ouais, il nous fallait un expert pour parler de ce sujet-là. Donc avec nous, l'Oustad Mohamed Khenissi. Bon, on va laisser lui se présenter lui-même. Allez, allons-y. Comme ça, c'est mieux. Membre du FORIF. Hein, donc cette nouvelle organisation.
Alors voilà, un nouveau sigle, le FORIF.
Voilà, il y avait le
Corif. Maintenant le FORIF.
Bah, il y avait un vrai RIF, mais un FORIF.
Ouais, non.
Bon. Vas-y, raconte-nous,
Mohamed. Bonjour Philippe. Bonjour Abdelali,
bienvenue.
Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, je ne suis pas membre du FORIF, vu que le FORIF n'est pas une instance, mais il participe en gros à un groupe de travail du FORIF.
Le FORIF, c'est un groupe de travail d'une consultation,
c'est une simple consultation.
C'est un forum d'échange où il y a des groupes de travail, il y a une dynamique, donc on reviendra sur les thématiques. Bah sinon pour le.
Alors FORIF, ça veut dire quoi pour tout le monde comme ça on
le forum embête. De l'islam de France.
D'accord. Et ça a été installé par qui
Ça a été imaginé, pensé par le bureau central de culte. Donc sur un peu.
Alors bureau central des cultes pour ceux qui nous écoutent.
Alors c'est l'organe de l'administration au ministère de l'Intérieur qui est en charge d'organiser, d'accompagner, d'échanger avec les cultes, avec les
tous les cultes, hein, y compris l'islam, mais à cet instant-là,
les six cultes reconnus par l'État qui existent en France. Et à ce titre, donc, ils sont inspirés du modèle allemand. Donc, je pense à la rentrée en septembre-octobre, il y avait des voyages, d'études en Allemagne, il y avait des diplomates allemands aussi. C'est pas pour faire une analogie pure et simple, mais bon, pour s'en inspirer. Donc, la démarche, elle est contrairement au CFCM, c'est pas par le haut, mais plutôt par le bas. Après, il y avait voilà donc un choix, une sélection, des invitations de participants, des concertations avec des acteurs nationaux.
Donc, Ashura qui veut dire en arabe la Ashura, concertation.
La concertation. Donc,
d'accord. Alors, les gens venaient s'ils voulaient ou il fallait qu'ils soient invités pour participer à ce cycle.
C'était sur proposition et sur invitation. La sélection, donc ça me dépasse, je n'en sais rien, mais ça a été fait en fait en concertation avec des acteurs de terrain.
Mais donc, c'est surtout d'abord une décision du ministère de l'Intérieur, donc du bureau de culte. C'est lui qui. Bien sûr, il y a une concertation avec l'administration des préfectures qui ont proposé des candidats, mais in fine, c'est l'État qui. Donc le ministère.
Qui a invité.
Oui. Qui a invité,
oui. Qui est la puissance invitante.
À l'INA, et notamment.
Après, contrairement aux politiques, en fait, c'est le bureau central de culte connaît très bien les acteurs de terrain. Donc, ils sont en contact avec beaucoup de avec les fédérations, mais aussi avec les acteurs indépendants, avec différentes dynamiques. Ils ont beaucoup de remontées d'informations, donc ils suivent ce qui se passe sur le terrain, au-delà des enjeux, en fait, des fédérations, etc. Après, bon, sur le mode des sélections, etc. Tout ça, enfin, je l'ignore totalement. Donc.
Je voudrais faire une petite, un petit éclaircissement à nos auditeurs, auditrices qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Ça va permettre de comprendre, si vous le permettez. Aujourd'hui, le CFCM, c'est quoi? C'est une confédération de fédérations. C'est-à-dire, c'est un rassemblement de fédérations, ce qui englobe des fédérations d'obédience particulière, soit d'État étranger, ou soit de pensée et philosophie liée à une approche de l'islam différente. Par exemple, les fédérations qui sont liées à des pays d'étrangers.
Oh, ça, c'est votre analyse.
Non, c'est la réalité.
Sur le papier, c'était pas ça.
Ah, bah, non, bien sûr que si.
Bien sûr que si. Parce que
j'y étais. Attends, là, par contre, là, Philippe, j'y étais.
Même si on revient avant le CFCM, durant les années 80, bah, on discutait en invitant aussi les ambassadeurs de Maroc, de Turquie, d'Arabie Saoudite, etc.
Oui.
Donc, après, pour revenir juste sur le Forif, en fait, je tiens à indiquer deux choses. En fait, moi, je parle, enfin, mon nom, certes, mais aussi que le Forif, contrairement au CFCM, n'est pas un organe de représentativité. Donc, on n'est pas.
Non, c'est-à-dire qu'il a pour objet d'aboutir à essayer de créer quelque chose. Certainement, peut-être par la base, etc. Mais elle a pour objet de organiser une réflexion pour aboutir à quelque chose, à une nouvelle organisation sur la base d'un échec qui a été le CFCM.
Non, alors pas du tout. La démarche est totalement différente.
Vas-y.
Alors, par des acteurs de terrain, c'est une dynamique, donc forcément, il y a d'autres groupes qui seront créés. Et là, ça émane des participants eux-mêmes. Nouveaux participants qui rentrent aussi dans les groupes. Ça aussi, tout ça, c'est possible. Tout est, en fait, là, on a balisé un peu, on reviendra sur les chantiers, mais l'idée, c'est de comment répondre à des questions pratiques, à des problèmes auxquels le CFCM n'a pas répondu. C'est pas en concurrence avec le CFCM, mais. Quand on regarde l'état du lieu, l'organisation du culte, les imams qui n'ont pas de contrat, les imams qui n'ont pas de statut, il y a aussi un problème juridique aussi, il y a un vide juridique, parce qu'un imam, loi 1905, bah, il ne peut pas avoir un lien de subordination, il ne peut pas avoir un contrat de travail, tout a été pensé sur le modèle catholique, les carrés musulmans, les problèmes que subissent en fait les mosquées, en fait, fermeture de comptes de banque, problème avec les assurances, la haine entre les musulmans,
rassurer les mosquées, les lieux de culte.
Le message là, vraiment haineux, islamophobe, mais vraiment qui est partagé par. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, les groupes de travail pensent comment trouver des solutions, non pas en fait pour en accomplissant eux seuls le travail, mais comment faire avec les acteurs de terrain, avec ce qu'il y a sur le terrain. L'administration, elle joue un rôle de facilitateur. On n'est pas dupe, il y a un agenda politique, et donc nous, on y croit. En se projetant au-delà des élections, etc. Donc, c'est un travail sur un an, deux ans, enfin, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est comment, par le terrain, trouver des solutions. Après, forcément, donc, pour revenir sur le CFCM, les fédérations nationales, elles sont là et elles pèsent sur le champ. Donc, forcément, donc, ce champ de représentativité n'est pas fini. Donc, forcément, elle va jouer un rôle important au niveau
des régions. Est-ce que vous pensez que la dissolution du CFCM est une bonne chose pour construire sur de bonnes bases? Ou est-ce que vous pensez qu'il fallait quand même garder le CFCM avec ce qu'elle représente, notamment, et notamment des ingérences étrangères qu'aujourd'hui l'État réfute et veut débarrasser? Il le dit clairement, monsieur Darmanin.
Le dicton arabe dit le Mac Adel Bishab, les gens qui sont à l'intérieur connaissent mieux leur maison. Et si on écoute et on croit les dignitaires de CFCM, tous parlent d'un aveu d'échec. Ben, d'échec partagé par ces dignitaires, par l'administration peut-être, les politiques.
On n'a pas besoin d'eux pour le constater. Donc, voilà. Nous aussi de l'extérieur, on le voit, que voilà, le CFCM donc, n'a rien fait depuis 18 ans.
Qu'est-ce qu'on a fait pour les imams?
On parle de 2003.
2003.
Ça fait 19 ans.
Combien de temps passé à parler formation des imams, les imams responsables de tous les maux, de la société, de radicalisation, d'échecs scolaires, de problèmes dans les familles, en pensant qu'ils font le beau et le mauvais temps, et en même temps, ce sont souvent les maillons faibles des associations. Et souvent, des imams, pas de contrat, parfois pas de situation régulière. Parfois avec des temps, enfin ils font imam Abdelali Mahmoud, tu peux t'imaginer, psychothérapeute, ou éducateur spécialisé, conseiller conjugal, ouais. Marital, alors et avec tout ça pour des salaires de misère, parfois ouais. payés au black, parfois avec des temps, enfin des contrats à 20 heures par semaine, voire moins, comme animateur, comme éducateur, mais jamais, enfin rarement par imam, pas de couverture sociale, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je pense que on doit regarder, on va dire, c'est pas à l'image de la noblesse de la mission. Enfin, l'idée, c'est comment rendre en fait
Les curés, ils ne seront pas plus payés, hein, tout de suite. Ouais,
mais attends, mais par contre,
ils sont moins payés, les curés.
En particulier, ils sont célibataires, Philippe.
Ils sont, logés, nourris.
Ils sont nourris, logés, blanchis, plus un salaire.
Et en plus, avec une pratique dans les paroisses, c'est que le prêtre, en fait, se fait souvent inviter à manger par les fidèles.
Ouais.
Et donc, quand on est
L'imam aussi, hein, si on insiste.
Oui, mais l'imam, il a une famille à nourrir. L'imam, il a une famille à nourrir, Philippe.
C'est vrai.
Il a un loyer, il a des factures.
Quand on voit, en fait, il a des imams qui arrivent à la retraite, qui constatent qu'ils ont des retraites minables, excusez-moi du terme, mais c'est affreux, c'est honteux.
Et non, il continue à travailler.
J'ai peur, en fait, de la
carrière. Il s'arrête pas, quand il peut, il travaille. Hein.
J'ai peur qu'on puisse assister aussi à une crise de vocation, que comment ça se fait que cette noble mission ne puisse pas attirer les jeunes, notamment ceux qui sont ancrés totalement dans la société, qui puissent faire des études. C'est pas... Est-ce que vous connaissez des jeunes qui sont attirés par faire imam, hormis quelques-uns par vocation?
Mais c'est les imams sur Internet.
Ah oui, ça.
Il va être imam sur Internet, digitaux.
Voilà, c'est un imam affairiste un petit peu, c'est-à-dire qui fait en sorte que son activité soit lucrative aussi.
Et surtout qui ne passe pas par la casitude, encore moins par la cas-science ou sagesse, ou encore moins par se voir comme artisan de paix.
Et aucune subordination, souvent, il cherche à avoir une certaine autonomie, une liberté de langage, de parler.
Ça aussi, c'est un point qui a été abordé, qui va être pensé. Enfin, on a juste fait un constat. Mais si un imam, on va dire, porte un discours, allez, qui pose problème, ou contre la République, ou je ne sais-je, à quel nom, mais pourquoi fermer l'association ou fermer la mosquée? Donc ça aussi, parce qu'on n'a pas de fiche de poste, on n'a pas détaillé toute l'état. Enfin, tout ce travail qui n'a pas été accompli.
Il y a surtout une ligne éditoriale. On va essayer religieux. Il faut du moins proposer une éditoriale de l'imamat.
Oui.
Et bien entendu, imposer aussi des limites à ne pas franchir. Donc, celles qui transgressaient les lois.
Alors, Imam Abdelhaïk, ce forum de l'islam de France, il s'est réuni pour la première fois la semaine dernière.
C'est ça.
De quoi est-ce que vous avez parlé?
Alors,
qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière?
Contrairement à ce qui a été annoncé, en fait, c'était une rencontre une rencontre solennelle, une plénière. Mais avant ça, il y avait pratiquement une dizaine de réunions
de préparation
de groupes de travail. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a fait un constat, un état de lieu. Les participants viennent de sphères très différentes, de régions très différentes, catégories d'âge très différentes. Ça passe de 75 ans à 25 ans, d'affinités différentes. Donc, chacun avec son témoignage, son expérience. Et on a essayé d'établir une méthodologie de travail, de se mettre d'accord. Ben, on n'est pas représentant du culte dans la globalité, encore moins des fidèles musulmans. Mais on essaie de penser, en fait, des solutions aux problèmes. On a fait une liste des problématiques. Là, moi, j'appartiens au groupe de travail donc, qui pense, en fait, ce qui est relatif aux imams. Donc, le statut de l'imam, le contrat de travail, fiche de poste et formation. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va essayer de faire le travail sur le terrain, avec les imams, avec les responsables de mosquées, dans leur globalité.
Vous vous intéressez à tous les imams, ou les imams qui sont ici pourraient repartir dans leur pays si
tous les imams si, qui sont
si,
sur
si
le
s'ils cochent pas
tous les imams qui sont
cases.
Tous les imams qui sont sur le terrain, faire avec ce qu'il a entre les mains. En fait, tous les imams qui sont sur le terrain, ils ont cette légitimité du terrain. Donc, au-delà de leur approche, et essayer de travailler ensemble, en fait. Peut-être au niveau du département, ça sera plus facile, plus judicieux. Tout ça, ça reste, en fait, à développer, les outils, quels outils scientifiques, quelles concertations, quelles modalités, quels ateliers menés, etc. Tout ça, c'est un travail collégial. Ce qui est intéressant aussi, que dans cette réflexion, il y a une dynamique très attractive, mais en même temps, en fait, contrairement peut-être à CSM, il n'y a pas de guéguerre, en fait, qui est le chef, c'est moi le porte-parole, je suis plus sachant.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette concurrence, cette énergie qu'on dépense pour avoir le leadership.
Nullement. Donc, c'était vraiment. Donc,
si tout le monde veut bosser pour
voilà,
bosser. Quoi.
Forcément, il y avait des divergences, des arguments.
Mais cette question-là va un jour revenir sur la table, forcément. Il faudra bien quelqu'un qui aille serré la main à M. Macron au vœu du Nouvel An et le 14 juillet.
Je pense que. On est à des années-lumière, en fait, dans le forum.
Macron, il sera plus là l'année prochaine.
On s'en fout, on parle du président. Président, j'ai pas dit Macron. Que ça soit Macron ou un autre, je pense qu'il sera là, moi, personnellement.
Ça dépasse totalement c'est même pas dans l'impensé des groupes de travail pour nous. La question, elle est totalement.
Car aujourd'hui, ce que vous sentez, c'est qu'il n'y a personne qui veut prendre le leadership.
Ah non, les questions n'est même pas posée. La question, elle ne figure même pas dans nos. tâches de travail, encore moins dans les tâches aveugles. Point à la ligne.
Donc,
elle est totalement exclue.
Sur les questions de l'imam, vous allez arriver à quoi? Vous allez arriver à un statut de l'imam en France, et à ce moment-là, tous les imams seront traités de la même façon?
C'est mieux que ça. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, pour comprendre, que les éditeurs puissent comprendre, un imam, alors, ou bien il y a affilié en fait à une institution loi 1901, donc dans ce cas,
c'est la plupart des cas.
Voilà, donc il est considéré comme enseignant, comme animateur, donc il n'y a pas de convention collective imam. S'il est donc employé, enfin, s'il a la chance d'avoir un contrat de travail avec une association en 1905, il est imam, c'est très rare, mais donc il peut avoir une couverture sociale à la CAVIMAC. Et la CAVIMAC a été pensée
Alors,
pour les
qu'est-ce
catholiques.
Qu'est-ce que c'est que la CAVIMAC? C'est la caisse d'assurance vieillesse.
Maladie des ministres de culte.
Des ministres de culte.
Et donc, ça couvre, en fait, ça a été pensé pour des prêtres célibataires qui sont logés et nourris par l'Église. Donc, c'est pas le cas, ça répond pas aux besoins des imams. Donc, l'idée, c'est comment trouver quelles sont les tâches des imams, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment établir un statut et négocier avec l'État.
Juste une question. Aujourd'hui, il y a des rabbins en France.
Oui.
Qui, eux, ont à peu près le même statut que l'imam.
Non.
Comment ont-ils réussi à intégrer la CAVIMAC? Comment ça se passe avec les rabbins?
Alors, les rabbins, c'est différent parce que les rabbins, ils ont des entités. Donc, il y a deux choses. Il y a une question de financement parce que quand on mange cachère, quand je viens acheter une viande cachère, je sais pertinemment qu'il y a une partie qui ira financer le rabbin, financer la synagogue, financer l'enseignement, en fait, du petit. Qui n'existe pas pour les musulmans. Il y a un jour, on devra se poser les questions véritablement. Deuxième chose, il y a une structuration par département, par région, c'est-à-dire on peut collecter, avoir cet argent.
Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il y a une sorte d'épiscopat, c'est-à-dire de rabbinat régional qui constitue une caisse grâce à cette cache-route, là, cet argent qui est récolté sur la viande cachère.
Entre autres,
ouais, parce que forcément, c'est pas que la, vu qu'ils sont pas très nombreux, les juifs en France, il y a 600 000 juifs, je crois pas que la viande, ou le bénéfice, ou la marge sur le kilo de viande cachère vendue en France suffirait à combler les salaires de tous les rabbins de France. Mais voilà. Donc, il y a certainement d'autres moyens de recettes, chez les juifs. Mais chez nous, les musulmans, si on fait le constat sur les moyens de récolter de l'argent, il y a effectivement Hakim El-Karoui qui essaie de faire un travail de réflexion avec son AMIF pour essayer d'avancer dans ce sens-là. Il a beaucoup de mal parce qu'aujourd'hui,
Elle existe, la taxe halal?
Non, il n'y a pas de taxe halal.
Non?
Non. La taxe, c'est pour simplement...
C'est-à-dire que les organismes aujourd'hui qui sont habilités à...
C'est pour eux le bénéfice.
Oui, mais
c'est pour eux. Comme une entreprise classique.
Non, mais il y a de l'argent.
C'est pour des acteurs privés. Ça ne va pas, en fait, dans les caisses des associations musulmanes, encore moins les imams, encore moins l'enseignement religieux, encore moins...
Que ça soit la viande halal, le pèlerinage, tout ce qui pourrait rapporter de l'argent, l'Aïd el-Kabir, toute cette manne financière liée à des rites religieux ne rapporte rien, à proprement dit, au culte religieux.
Au culte musulman.
Pour reparler de dynamique, voilà. C'est pour ça.
À l'organisation, en fait, par exemple, du culte.
Au Fourif, initialement, il n'y avait pas de groupe de travail, financement. Sauf que la question financement est venue dans les réunions. Et donc, il y a une réflexion à monter un groupe de travail. Pas que la MIF, hein, loin de là. Enfin, il y aura participation quelques membres de la MIF. Il y a beaucoup aussi d'acteurs de terrain qui ont une réflexion.
Alors, la MIF, pour que les gens sachent, c'est une association qui a été créée par Hakim El-Karoui, qui est un intellectuel français d'origine tunisienne, moitié, on va dire, moitié français, moitié tunisien, et qui a été conseiller dans le gouvernement de Chirac, Raffarin, je crois, c'était ça.
Moi, je l'ai connu, c'était la plume de Raffarin.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et il a été au ministère de l'économie aussi, il a travaillé au ministère de l'économie, et qui est de confession musulmane, et qui a réuni un certain nombre de personnalités qualifiées. Il y a parmi eux Tariq Oubrou, Mohamed Bajrafil, et il y a aussi Mohamed aussi avec...
Ça, c'est pour la partie
voilà, en gros, il a discuté avec tout ce monde-là, pour travailler la mise en place d'une structure financière qui permettrait de financer la formation des imams.
Ce qui a été présenté samedi, c'est plutôt des pistes de réflexion sur le financement. Il faut noter aussi que dans les différents groupes de travail, il n'y a pas de ligne, en fait, doctrinale. Il n'y a pas, en fait, un courant de l'islam qui est mis en avant. Loin de là. Enfin, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, en fait. Sans passer le... j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, enfin, on dit tout et n'importe quoi, et on dit surtout n'importe quoi. Tous les courants sont plus ou moins représentés. Enfin, et hormis, il n'y a pas, en fait, de mise en avant d'un courant réformateur, libéral, etc. Enfin, loin de là.
Bien, on parle de l'islam de France ce matin. Vous pouvez bien sûr intervenir et poser des questions si vous en avez au standard, au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
On parle de l'islam de France ce matin et ça s'accélère avant les élections présidentielles avec ce nouveau cycle de travail qui s'appelle le FORIF, le Forum de l'islam de France. Alors on en parle avec notre invité Imam Abdelali Mamoun ce matin qui s'appelle Mohamed Kenissi, qui est artisan du dialogue entre les religions notamment. Mohamed, vous êtes certain que donc ce FORIF n'a pas vocation à devenir autre chose qu'un cycle de discussion?
Je le jure.
D'accord.
Non, alors
ça va pas se transformer en...
Ah si, bien sûr.
Moi, tout se fera avec les acteurs de terrain. Pour l'instant, donc la question n'est pas en fait à créer. Pour l'instant, on essaie de porter des solutions. Avancer pour être en fait,
mais il ne faudrait pas plus. Ouais. Mohamed, je suis pas franchement. Moi, toi, oui. Tu me disais tout à l'heure que tu es pas d'accord avec moi. Ben, moi aussi, je vais te renvoyer l'ascenseur en disant que là encore, moi je suis pas d'accord. Puisque l'historique au début de l'année 2000, ça a été que on a créé un CORIF, n'est-ce pas? On est bien d'accord, pas un CORIF, un quorum.
Le quorum, ouais, c'était arrivé.
Voilà, c'est le Comor, excuse-moi, la Comor.
Il était pas né, Mohamed, c'est pour ça. Il s'en souvient
la
pas.
Comor, la commission organisation de la mise en place d'une instance représentative de l'islam et organisatrice de l'islam de France. Là, je pense qu'on est un peu dans le même schéma où on essaye peut-être, en prenant en compte les erreurs de ce qui s'est passé au début du siècle, au début du millénaire, on va dire au début de 2000, en disant voilà, il y a eu cette erreur-là. On est parti sur, par exemple, le fait de mettre en avant les fédérations étrangères, les frères musulmans, l'établir et tous ceux qui prônent un islam qui vient de l'étranger et qu'ils veulent calquer en France par leur lobby et par leur militantisme. C'est le cas de l'UIF, c'est les gars d'établir, c'est le cas même, pourquoi pas même du salafisme, etc. Mais bien entendu aussi cette ingérence des États étrangers. Ça, ils veulent tout simplement l'effacer de l'ardoise, l'effacer du tableau, du paysage islamique de France. C'est à mon avis la principale étape. Donc pour le faire, il faut remplacer par autre chose. Donc à mon avis, le FORIF a pour objet de mettre en place quelque chose qui va remplacer tout ça et qui va permettre d'avoir une meilleure organisation de l'islam en France. En tout cas, moi en tout cas, c'est ce que je souhaite.
Oui.
C'est ce que j'aimerais bien qu'il se passe. Et des mots de Monsieur Darmanin, c'est ce qu'on comprend. Aujourd'hui, il dit que le CFCM n'est plus vivable. Le président lui-même du CFCM le dit, tout le monde le dit, même le recteur de la Grande Mosquée de Paris dit que le CFCM aujourd'hui n'est plus vivable et qu'il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Alors c'est vrai que si on continue à se focaliser sur la représentativité de qui va représenter, là on va droit dans le mur. Mais si on se pose la question de comment organiser l'islam de France, comment mettre en place des actions qui vont être menées sur le terrain, effectivement si on part de cette facette de l'islam, on pourra effectivement peut-être percer et avoir une meilleure organisation qui aboutirait à une plus grande autonomie de l'islam de France et donc finalement moins d'ingérence de l'étranger.
Finalement, nous sommes d'accord. Enfin, il faudra nuancer, c'est que, au lieu de travailler sur la représentativité, on travaille sur les solutions. Ça veut dire, on trouve des solutions.
Mais qui va aboutir à une représentativité. Dire qu'il n'y a pas de représentativité derrière, c'est pas.
Abdelali, il a des qualités que j'ai pas. Il est devin, et donc pas moi. En fait, parce que juste quand on essaie de comprendre un peu les sujets, les problématiques, on réalise que ça demande beaucoup de travail. Et on demande. Là, tout à l'heure, je parlais pour les statuts des imams. Il sera question, donc, forcément, avec le terrain, de négocier avec l'administration, de rêver d'avoir, c'est pas de rêver, d'espérer d'avoir une convention collective imam.
D'accord. Qu'est-ce qu'on fait par exemple des imams qui sont détachés? On va prendre des imams algériens.
Ils vont partir ceux-là.
Non, mais c'est sûr qu'ils partent.
Non, bien sûr. Les questions, non. La question n'est pas tranchée déjà dans l'administration. Donc, il y aura toute une discussion. Ils peuvent aussi. Est-ce qu'ils peuvent rester aussi?
Oui, mais finalement,
il n'y aura plus d'imams détachés.
Ceux qui sont déjà là pourront peut-être rester. Oui. Certains voudront rester, mais pour la plupart, ils vont partir. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux sont mariés. Ils ont une vie en Algérie ou au Maroc ou ailleurs ou en Turquie et qui ne sont pas, ils n'ont pas pour vocation de rester au-delà de 4 ans. Donc au bout de 4 ans, ils sont venus gagner de l'argent et jouer leur rôle en tant qu'imam en France pour combler les besoins des mosquées pendant un certain temps. Mais effectivement, ça nous donne une marge de 2 ans encore jusqu'à 2024 pour que on puisse proposer des imams français.
Ce qui nous interpelle en fait sur notre obligation, de communauté de fidèles, à trouver des imams aussi. Bah, qui puissent psalmodier le Coran, le Ramadan, qui puissent mener les prières, répondre aux besoins des fidèles dans les mosquées.
Mais Philippe, excuse-moi, moi je vais te dire un truc.
Oui.
Ces imams, ils existent. c'est arrêter de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'imam en France. Attends, laisse-moi terminer.
Non.
Je vais t'expliquer pourquoi je pense ça.
Regarde.
Attends, bah, laisse-moi terminer ma phrase.
Laisse-moi terminer ma phrase
et je t'explique pourquoi. Moi, je connais des dizaines et des dizaines d'imams qui ne sont plus imams, tout simplement parce que ils n'ont pas la possibilité de l'association d'avoir un salaire. Et ils n'ont pas d'autonomie. C'est-à-dire, soit ils ont un problème avec l'association parce qu'on leur dit, tu restes notre marionnette, tu obéis à nos ordres parce que c'est nous qui te payons et on a déjà beaucoup de mal à te payer. Donc, tu fermes ta bouche et tu obéis à ce qu'on te dit. L'imam, lui, il n'en veut pas de ça. Et en plus, même les associations, je termine encore, n'arrivent pas à payer. Ils n'arrivent pas à payer le salaire de l'imam. Aujourd'hui, ça coûte 3000 euros un imam par mois avec les brut. Sans parler du logement, etc. Donc aujourd'hui, ce qui arrange les mosquées, c'est d'avoir des imams qui coûtent rien. Donc les imams détachés venus de l'étranger, ça leur coûte zéro, donc ils préfèrent privilégier cela.
Bah, encore une fois, Abdelali me dit non pour dire pour qu'on soit d'accord. Ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi, en fait, là, exemple hier, on a accompli le prêche du vendredi. Les mosquées, déjà, elles commencent à chercher des psalmodieurs pour le ramadan.
Mais il y en a, il y en a. Il y en a, ils ont trouvé, ont tous trouvé.
Oui, mais c'est un problème. Il y a beaucoup de mosquées qui n'ont plus d'imams.
Parce qu'ils ne peuvent pas les payer, il y a des imams.
Il y a une réalité financière.
Mais ils ne veulent pas les payer, ça leur coûte trop cher.
Il n'y a pas que la réalité financière.
Il n'y a pas des adhérents. Le problème, moi, je vais dire un truc, c'est quoi ? Le problème, c'est les associations. Comme elles ne sont pas ouvertes à tous les adhérents, et qu'elles ont, pour beaucoup d'entre elles, je ne parle pas pour toutes, je ne fais pas une généralité, mais pour la plupart, c'est quoi ? C'est qu'on a des associations opaques qui sont composées de, par exemple, une dizaine de membres. Ils n'ouvrent pas aux autres pour que les autres puissent donner de l'argent et en toute transparence et dire voilà, il y a tant d'argent qui rentre dans l'association. Vous avez tous votre mot à dire parce que tout le monde paye, donc tout le monde a le droit de décider ensemble de ce qu'on fait dans cette mosquée. Non, il y a un groupuscule qui, parce qu'il utilise son pouvoir à la loi 1901 qui leur donne la possibilité de ne pas laisser adhérer d'autres membres, ce qui fait que l'association se retrouve en pénurie financière parce que ces gens-là ne peuvent pas assumer. Et après, l'imam, il ne peut pas être salarié. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher un imam de la mosquée de Paris ou du Maroc ou de la Turquie.
Ce qui soulève en fait une problématique dans l'organisation de culte, à savoir la transparence administrative et financière qu'une éthique musulmane qui est parfois absente dans nos mosquées, dans la gestion de nos mosquées. J'espère qu'avec les acteurs de terrain, on trouvera des éléments de réponse et des solutions.
D'accord, mais dans ce qui se profile, qui paiera les futurs imams ?
Alors, ça aussi, il y a toute une réflexion, en fait. C'est ça aussi, toute une réflexion. Mais les mosquées, en fait, il y a beaucoup de mosquées, des mosquées cathédrales, mais qui n'ont pas de modèle financier, qui n'ont pas de source d'argent. Il y a des grandes mosquées, en fait. Et là.
Parce qu'ils ne veulent pas en avoir.
Alors, il y a
parce qu'ils veulent garder le monopole.
Il ne faut pas essentialiser. Je pense qu'il faut.
Ça sera judicieux
de regarder les modèles qui fonctionnent. Les modèles fonctionnent, sont nombreux. Et c'est ça aussi la démarche aussi de la dynamique des groupes de travail. De s'appuyer sur les exemples qui marchent. Moi, je suis. Nous sommes dans le 94, juste à côté la grande mosquée de Créteil, où un modèle qui marche très bien, avec un modèle financier, avec deux entités, 1901-1905, où il y a une transparence administrative financière, pour leur rendre hommage. Eh bien, cette expérience, ils sont dans le devoir de partager avec les autres associations des départements. Et je pense qu'il y a des modèles qui marchent, et on doit s'appuyer sur ce qui marche. Et trouver des solutions, comment l'améliorer, comment le partager.
Pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe à Créteil, c'est qu'ils ont un WARF. Qu'est-ce que c'est que le WARF ? C'est-à-dire, ils appellent ça de l'immobilier. C'est-à-dire, ils ont un hammam, ils ont un restaurant, ils ont une bibliothèque, une librairie, je veux dire, et ils ont même un snack sur le parvis de la mosquée. Et puis, il y a l'école arabe. Donc, il y a tout un ensemble.
En plus, ils font le meilleur relbelouz de tout le mois du ramadan. Alors,
C'est bien.
Ils ont eu
l'intelligence de créer autour de la mosquée des infrastructures qui leur permettent de faire entrer de l'argent fixe, des loyers fixes. Et ces loyers fixes permettent de payer les charges fixes. Donc, à partir du moment où tu as un équilibre entre loyer et charge, après le reste, c'est du.
Ce qui est absent dans la réflexion de certaines mosquées. Enfin, par la force des choses, en fait.
Et il faut rendre hommage. Elle est énorme. Elle peut accueillir 2000, 3000 pèlerins.
Il faut rendre hommage à toutes ces générations de fidèles qui ont financé la construction de mosquées. Maintenant, peut-être, il y a aussi une obligation, une responsabilité, je dirais, et notamment pour les générations futures. Mais comment s'organiser? Enfin, en fait, il y a un déphasage entre le discours religieux, entre les principes politiques musulmanes, et parfois entre la qualité de gestion de nos lieux de culte. Mmh. Et quand on parle d'imam, quand on voit la noble mission que ce qu'est un imam, on n'est pas en fait quand on se projette dans la société, on n'est pas dans la sagesse un peu, l'humour des rabbins, la connaissance du pasteur ou du prêtre, et pourtant il y a de quoi. Donc c'est un peu ça, c'est vers ces finalités là à travers l'euphorisme, mais pas que, avec toute cette dynamique et qui a vocation à s'étendre notamment avec les acteurs de terrain, à trouver et à rendre noblesse en fait à cette mission très chère à nos cœurs.
Alors, on a parlé des imams. Autre atelier aujourd'hui de discussion au Forif. Vous parlez de quoi d'autre ?
Alors, il y a un autre atelier sur l'aumônerie. Donc, comment organiser l'aumônerie ? Bah, l'aumônerie militaire, pénitentiaire et hospitalière. Comment désigner les aumôniers ? Comment les former ? Les payer ? Donc, il faut comprendre un peu. Il y a un état des lieux qui a été fait et beaucoup de pistes de réflexion. Et toujours dans cette démarche de travailler avec ce qu'il y a sur le terrain.
Après, qui c'est qui les nomme, les aumôniers musulmans, par exemple ?
Alors, il y a trois nominations. Donc, c'est l'administration qui nomme les aumôniers, parce que les aumôniers sont financés par l'État. Les aumôniers nationaux, c'est-à-dire un aumônier national pénitentiaire, hospitalière, militaire. Pour le côté militaire, comme c'est une institution qui est bien organisée, donc les choses se passent mieux que dans le reste.
Tout simplement parce qu'ils ont un statut de militaire et qu'ils deviennent donc fonctionnaires du ministère des armées. Mmh. Et donc ils ont un salaire identique aux autres militaires de leur grade. C'est-à-dire ils ont un grade. Ils ont un grade
militaire. Formation, question tâche, question rigueur.
Donc. Et attention, la désignation de ces militaires-là sont bien entendu sous homologation et acceptation du ministère des armées, sur proposition de la mosquée de Paris. Attention, je parle pour les aumôniers militaires. Pour les aumôniers des prisons, c'est...
Ce mode de désignation...
Normalement, en fait, c'est le RMF, c'est ça ?
Oui, mais
en principe.
Des coutumes qui se sont installées. Ce sont des coutumes qui se sont installées. Et ce serait bien de trouver en fait des modes de désignation.
Outre. Disons-le, faisons l'état des lieux. C'est quoi ? Aujourd'hui, c'est quoi ? Avant de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, il faut quand même les auditeurs comprennent, Philippe. Aujourd'hui, le candidat à l'aumônerie nationale, celui qui va être l'aumônier national, qui va ensuite recruter d'autres aumôniers au niveau des armées, c'est la mosquée de Paris. Celui des prisons, c'est le RMF, c'est-à-dire le courant marocain, d'accord ? Et pour celui des hôpitaux, c'est l'ex-UIF. Du moins historiquement parlant. Maintenant c'est de moins en moins.
Mais je suis d'accord.
Non mais les dernières nominations, ça a été fait par le président du CSCM par exemple. Enfin, mais bon, ça, il parle en fait comment ça s'est passé dans le passé. Ça c'est vrai.
Oui, parlais du passé. Maintenant effectivement, ça commence à changer.
Et surtout comment un aumônier national désigne, il choisisse, il nomme les autres aumôniers. Donc il y a des choses à améliorer. C'est le moins.
Pourquoi ? Parce que c'est pas transparent, c'est pas quoi ?
Mais parce que, par exemple, pour l'aumônerie hospitalière, il y a une demande. Bah, l'aumônier, donc, souvent, il est nommé dans deux, trois hôpitaux. En fonction des régions, il s'appuie sur des aumôniers bénévoles. Avec, en fait, voilà, un petit billet par là. Enfin, là, c'est une réalité. Et encore, parfois, non. Donc, parfois avec des formations qui sont. Parfois avec des engagements aussi d'acteurs. Il n'y a pas de connexion,
parce que,
entre l'aumônier hospitalier et l'association, la mosquée qui est juste à côté de l'hôpital. Ça aussi, ça doit être travaillé. Donc, dans certains cas, ça se marche bien parce que ça se match, etc. Mais dans beaucoup de cas, il n'y a pas de choses écrites.
On en revient à la question du statut, finalement. Mais
parce que, tout simplement, au niveau hospitalier, l'organisation n'est pas la même que dans l'armée. L'armée, c'est régalien, donc c'est l'État lui-même avec son ministère qui gère tout ça, puisque c'est trop sensible. On parle de l'armée, donc des armes et tout ça. Alors que l'hôpital, c'est la santé, donc c'est autre chose. Là, c'est plutôt décentralisé au niveau des hôpitaux, et c'est la direction d'hôpital qui décide et qui va discuter avec les cultes pour désigner un aumônier dans son hôpital.
Bien, on parle de l'islam de France ce matin jusqu'à 11h. Vous nous rejoignez en composant le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de l'islam de France ce matin avec notre invité Mohamed Kenissi. Et on est en train d'évoquer les différents chantiers de ce nouveau cycle de travail entre l'État et le culte musulman en France, le FORIF, le Forum de l'Islam de France. Alors on a parlé des aumôniers, on a parlé des imams, il y a d'autres chantiers hein, actuellement.
Oui, initialement il y a quatre groupes de travail, donc il y a un groupe de travail qui s'occupe comment réfléchir, comment accompagner les associations musulmanes. Il y a une loi qui a été promulguée, donc qui va rentrer en fait... en application, comment les accompagner en fait, par rapport
au... Alors justement, c'est quoi cette loi? Qu'est-ce que dit cette loi?
Bah, la loi,
elle va imposer les associations 9901 à devenir loi 905, c'est ça?
Alors, elles incitent, elles n'ont pas de, enfin,
on ne peut pas les obliger.
Elle peut pas les obliger. Néanmoins, en fait, il y a des avantages fiscaux, il y a aussi des contraintes de transparence, de tenue de compte, etc. Il y a aussi davantage de
gestion. Parce qu'aujourd'hui, attends, pour que les auditeurs comprennent,
oui.
Les associations loi 1905 sont exonérées des charges fiscales, notamment en matière d'immobilier. C'est-à-dire que
des dons aussi.
Et des dons aussi, voilà.
À hauteur de 66%, ce qui est très intéressant. Mmh. En fait, pour comprendre...
Mais même les associations ou l'OM 901 aussi.
Oui,
mais donc pourquoi ne pas rester l'OM 901?
Alors, pour comprendre un peu pour les auditeurs, en fait, on parle de l'OM 905, l'OM 901. L'OM 901, ce sont des associations en caractère culturel. Elles peuvent faire du culte, mais surtout
Alors, ils peuvent faire du culte, pourquoi? Parce qu'il y a une loi 1907,
voilà,
qui donne la permission à une association, loi 1901, de faire du culte, qui est apparue 2 ans après la loi 1905.
Tout à fait.
C'est, loi 1905,
ce sont des associations culturelles. Donc, ils font seulement du culte. Et donc, souvent, en fait, un des modèles, 1905 pour le culte, 1901 pour l'enseignement arabe,
voilà,
etc.
Le côté culturel.
Culturel. Il y a aussi une gestion davantage départementale, c'est-à-dire en rapport direct plutôt avec les préfectures, etc. Et on a constaté, en fait, ils ont fait le constat qu'il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de soucis dans les rapports avec les banques, avec les assurances, et des fermetures de comptes, en fait, dans le Lyonnais, on a évoqué tout à l'heure, mais pas que.
Le rôle.
Et donc, l'idée, c'est comment accompagner sur un plan juridique, comment donner, en fait, une connaissance, des conseils. Je pense qu'ils ont balisé un peu le champ. Et tout reste à faire avec les acteurs de terrain, au niveau des départements, avec les acteurs de terrain. Et j'incite, en fait, parce que ce qu'on oublie aussi, au-delà des acteurs du culte, mais la communauté regorge, en fait, de talents, de juristes, d'avocats, de connaisseurs, de consultants. Et c'est, en fait, avec ces acteurs-là que le groupe de travail a vocation, en fait, à expliquer, à travailler, à réfléchir, à trouver des solutions. Aussi interpeller ce qui a été fait, en fait, dans la remise des travaux, interpeller l'administration, mais surtout le politique, à négocier, à demander des explications aux banques. En fait, si nous sommes la deuxième religion de France, ici en France, bah, on a droit, en fait, à davantage de respect. Et à davantage aussi de structuration dans ce champ-là. Il y avait aussi donc la question des carrés musulmans. Je pense que la pandémie a accentué, en fait, ce constat de dire, bah, on manque, en fait, de carrés musulmans. Ça reste, en fait, juste à la guise du maire, de l'élu local, de favoriser ou pas, de laisser passer ou pas. Et je pense que cette question mérite réflexion et mérite surtout structuration. Et ça se fait avec les acteurs du terrain.
Il y a toujours des problèmes, justement, avec les... Moi, je pensais que c'était réglé.
Ah non, il y a toujours des problèmes.
Alors, pour que les auditeurs comprennent, c'est par exemple, on est dans un village où il y a une famille musulmane qui habite dans cette commune. En principe, la loi dit que tu peux être enterré soit dans l'endroit où tu es mort, dans la ville où tu décèdes, d'accord, dans le cimetière de la commune où tu es décédé, ou dans la commune de ta domiciliation, de là où il y a marqué ton adresse,
là où tu habites.
Oui. Donc si dans là où tu habites ou là où tu es mort, il n'y a pas de carré musulman, la difficulté, c'est comment faire pour obtenir un droit, une dérogation pour qu'il puisse être enterré dans une ville limitrophe ou de proximité. Où est-ce qu'il y a justement un carré musulman?
Pour faire un peu le parisien, enfin juste le département Val-de-Marne. Le carré musulman, on va dire, de Valenton, a refusé des demandes, en fait, a refusé parce qu'il y avait beaucoup de demandes de personnes, en fait, qui viennent de villes limitrophes ou même d'ailleurs.
Alors que c'est un cimetière limité. Communal.
Tout à fait.
Il y a des cimetières intercommunaux, donc c'est là où c'est intéressant parce que là, ça permet d'accueillir beaucoup plus. Par exemple, à Clamart, j'ai vu ça.
Tout à fait. Ouais.
Il y a un carré musulman parce que c'est un cimetière intercommunal. Il y a en plus un cimetière communal. Il y a deux cimetières à Clamart.
Donc l'idée, c'est de sortir un peu de cette rester à la guise du politique, mais trouver un modèle, une structuration, un accord, des solutions pratiques.
D'un point de vue juridique, gens sachent, c'est que depuis 1895, je crois que c'est cette date-là, qu'il est interdit de créer des cimetières confessionnels en France. Ça, c'est depuis la loi sur un début de laïcité que l'État voulait imposer.
De toute façon,
ensuite, il y a eu en 1991, c'est la loi Quilès, Paul Quilès, qui était ministre de l'Intérieur, c'était pas une loi, c'était un décret qui autorisait que dans ces cimetières laïques, dans ces cimetières neutres, hein, il puisse y avoir des endroits, des carrés, c'est-à-dire des territoires à l'intérieur des carrés, municipaux, des cimetières municipaux, des carrés réservés aux confessions chrétiennes, juives, musulmanes, depuis 91. Et c'est sur ce décret-là que aujourd'hui les mairies aujourd'hui s'autorisent à ouvrir des carrés confessionnels.
Juste un élément de compréhension, on va dire historique, mais pour prendre un peu de la hauteur. Je suis consultant en fait religieux et en fait dans le fait religieux, dans la gestion administrative du fait religieux, tout a été en fait pensé, mais avec les églises, c'était avec essentiellement avec l'église catholique, avec cette culture, cette impensée catholique, cette culture catholique, chrétienne, avec les pasteurs, avec les juifs. L'islam n'était pas là. Enfin, l'islam c'était la religion de colonisés, des indigènes éloignés, etc. Et donc qu'il y a des tractations, des échecs, des crispations, des problèmes. C'est un peu l'histoire de toutes les religions dans leur organisation. Et je pense que, au contraire, on est en train d'avancer. Et j'espère qu'on va avancer davantage vers des solutions pratiques. Il y a le quatrième groupe, en fait, qui travaille, en fait, sur la haine. Et cette haine.
Alors, sur la lutte contre les actes anti-musulmans.
Alors, il y a deux champs. La sécurité des luttes cultes. Où les luttes cultes, en fait, bah, musulmans, de surcroît, en fait, elles doivent en fait prendre en considération ce risque-là, se doter aussi de moyens de sécurité à l'instar des synagogues, des églises, et que ça peut être financé jusqu'à 80%.
C'est-à-dire que l'État peut financer, par exemple, l'achat des caméras de sécurité, des alarmes, par exemple, du matériel d'alarme.
Mais que ça, en fait, le groupe travaille. En fait, il y a aussi le partage en fait de connaissances, d'expériences entre les acteurs de terrain. Ça aussi, c'est précieux à mettre. Après, il y a on a parlé aussi, ils ont toute la haine qui existe en fait. Alors, islamophobie, haine anti-musulman, sans jeu de mots, mais on parle que du slam, du musulman, avec des pseudo-candidats polémistes et
pas. Non, parce que pour résumer aux auditeurs, oui. Souvent, on dit non, nous on n'attaque pas les musulmans, on attaque l'islam en tant que religion, en tant qu'idée, en tant que croyance, et ça la loi effectivement l'autorise, mais c'est facile de glisser justement entre haïr, combattre et dénoncer une religion et les adeptes qui croient. Et c'est là où le bas blesse. Très vite, aujourd'hui, les médias qui se donnent le droit au nom de la démocratie de s'en prendre à une religion, finalement, ça glisse, je dis bien, il y a un phénomène de glissement vers des actes anti-musulmans, où est-ce que ce sont des individus, des personnes, des citoyens en France qui sont agressés parce qu'ils sont de confession musulmane. Et c'est ça qu'aujourd'hui, l'État se penche pour essayer de trouver des solutions.
Et surtout, en fait, pour ne pas les oublier, et surtout les femmes voilées et les filles voilées.
Ouais, parce que c'est elles qui montrent...
La victime idéale, on parle de voile
parce qu'elle est fragile
du matin au soir. Les attaques, enfin, la plupart des attaques, c'est entre elles. Contre elle, c'est en fait il y avait un des participants mais qui était royal qui a évoqué une autre forme de haine. C'est pas en fait quand on tague à une mosquée ou avec une tête de cochon ou un signe nazi. Non, mais toute la haine que reçoivent nos enfants en fait, qui regardent la télé, les réseaux sociaux, qui sont pas déconnectés, qui ont 14 ans, 15 ans. Comment encore ils peuvent en fait être pleinement épanouis dans la société, dans leur spiritualité. C'est un défi. Et c'est un défi qui se fera avec les acteurs du terrain, mais aussi avec l'administration.
Inch'Allah. Allahumma sallim.
Wa qul a'malu fa sayyara Allahu 'amalakum wa rasuluhu al-mu'minun. Donc,
al-mu'minuna bil mashru'.
Inch'Allah.
Mohamed, Kinissi sur Beur FM, Imam Abdelali, vous partez à la Omra bientôt.
Oui, je pars la semaine prochaine.
Et vous avez 35 secondes.
Alors, c'est le 21, non pas le 23 finalement que je pars, le lundi 21. Donc, ceux qui veulent partir, c'est le dernier jour aujourd'hui, samedi. Donc, dimanche, dépôt des dossiers à l'agence. Pour partir, ceux qui veulent participer m'appellent au 06 29 25. 35 00, 06 29 25 35 00.
Et vous le faites plein d'or, Inch'Allah.
Ah oui, Inch'Allah, pour toi et pour tous les auditeurs, Inch'Allah. Ceux qui nous écoutent.
En attendant, on vous retrouve la semaine prochaine. Imam Abdelali, passez un bon week-end sur Beur FM.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.